Chers amis, chers collègues, chers étudiants, mesdames, messieurs, il y a 40 ans, en 1964, un jeune enseignant de la faculté des lettres de Strasbourg suggérait à Martin Heidegger, lors d'une conversation informelle, de venir faire une conférence à Strasbourg. Heidegger trouva l'idée intéressante et promit d'y venir. Mais pour parler à l'université, il fallait pour cela l'aval du doyen de la faculté. Celui-ci consulta, recueillit des avis et conclut à la non-recevabilité de la proposition. Bien plus, un professeur éminent de cette faculté prédit au doyen que si Martin Heidegger venait à l'université, il lui barrerait le passage et l'empêcherait de gravir les marches du palais universitaire. Situation paradoxale. Que faire? J'étais seul. C'était avant 68. Jean-Luc Nancy, Philippe Lacoulabarthe n'étaient pas encore des nôtres. Martin Heidegger ne put donc pas venir, pour ainsi dire, en chair et en os. Mais il est là aujourd'hui. Plus présent qu'il n'y eût été en 1964, présent aujourd'hui, nous provoquant à nouveau, comme toujours, et nous appelant à penser ce qui importe. Donc un juste retour des choses. Le mot « juste » me permet d'évoquer celui qui devait parler ici, ce soir, et ouvrir ce colloque, et à qui ce colloque est dédié, Jacques Derrida, Derrida le Juste. Il a parlé ici même, en juin dernier, à cette place où se trouve Jean-Luc, c'est-à-dire hier, c'est-à-dire il y a un instant. Mais il est présent lui aussi, fortement, ce soir. Il fait signe à Heidegger, et Heidegger lui fait signe. Heidegger n'a-t-il pas écrit « Je me réjouis de faire la connaissance de Jacques Derrida » Et Derrida n'a-t-il pas dit « Je dois ma vocation philosophique à Martin Heidegger » Ce salut de la pensée de l'un à l'autre, de la part de ceux par qui l'interrogation toujours à nouveau nous est imposée et l'inquiétude maintenue, il me plaît de le rappeler en ce début de cet exceptionnel colloque sur Martin Heidegger. Et comme envoi à ces journées, je placerai le mot de Martin Heidegger, einen Denker ehren wir, indem wir denken. Essayons de le faire. De penser, mise en mouvement que nous sommes par la parole inscrite dans les textes qui sont le prétexte de ce colloque. J'ouvre donc ce colloque en donnant la parole à Jean-Luc Nancy. Jean-Luc Nancy qui, avec Philippe Lacoulabarthe, ont fait de Strasbourg un endroit où philosopher est devenu un endroit recherché. Jean-Luc, c'est à vous de parler.
Merci, Lucien. Je compléterai peut-être ce que vous venez de dire. Je pense avec l'accord de Philippe, en disant que si en 1964 nous avions été ici, nous n'aurions sans doute pas non plus souhaité que Heidegger parla à l'université. Entre cette date et celle de maintenant, se joue sans doute l'écart et l'ambitus qui donne l'ouverture dans tous les sens du mot de ce colloque par le titre que ses organisateurs lui ont donné, « Le danger et la promesse ». Je dois... j'ai reçu la tâche technique d'informer tout le monde que toutes les séances du colloque auront lieu dans cette salle. Que donc les indications différentes qui figurent en tout cas sur le document Internet sont caduques. Tout se passera donc ici à l'Aubette. Et tout en pensant, bien entendu, comme vous venez de le dire, Lucien, à Jacques Derrida, dont la conférence dans cette salle, en juin dernier, fait maintenant l'objet de la plaque que vous avez pu voir à la droite de la porte d'entrée. Tout en pensant à lui, c'est-à-dire tout en continuant à penser avec lui, en dialogue avec lui, je remercie tout simplement le Parlement des philosophes et ses responsables d'avoir organisé ce colloque, et tout particulièrement, bien sûr, le premier moteur de toute cette affaire, à savoir Joseph Cohen, sans l'énergie duquel nous ne serions pas là. Je ne partirai pas de Heidegger ce soir, j'y viendrai seulement. Et même je viendrai seulement à un mot de lui, à ce mot, à cette phrase qui fait le titre de cet exposé. J'y viendrai seulement pour commencer ce colloque par une démarche vers Heidegger plutôt que par une démarche à partir de lui. Et en fait, je ne traiterai pas de lui, je ne le commenterai pas. En même temps que, pour faire contrepoint, un passage du texte que Philippe vient d'écrire et de nous donner, grâce aussi à Lucien Braun, à ce texte de Die Armut, dont la publication est assurée par les presses universitaires de Strasbourg. Donc, en contrepoint à un mot de Philippe dans ce texte, dirais-je, moi, ce soir, je laisserai de côté M. Heidegger. Donc, je ne traiterai pas de lui. Ce qui m'importe est plutôt d'indiquer la possibilité, voire la nécessité, aujourd'hui, d'embrayer à nouveau sur ce mot de lui qui est trop ou mal célèbre, qui est bien connu et donc mal connu, comme disait Hegel. Pour ce qui est de commenter ce mot, de partir de lui, d'autres l'ont déjà fait, d'autres le feront. Je pense en France plus particulièrement à Bernard Sicher ou au livre récent et certainement très important de Didier Franck. Mais, pour ma part, je pars d'ailleurs autrement. En fait, je pourrais dire aussi que ce qui m'importe n'est pas que cette phrase soit de Heidegger, et que c'est pour d'autres raisons qui recoupent sans doute celle de Heidegger, mais autrement, que je pense devoir aller vers elle, aller y voir de son côté. Et je tiens aussi à dire d'emblée, a priori, au sens même très kantien du terme, vous le verrez, que rien dans cette affaire, pour moi, rien n'est a priori de l'ordre du religieux. Je commence donc. Non seulement l'athéisme est une invention spécifique de l'Occident, mais encore doit-il être considéré comme l'élément dans lequel l'Occident s'est proprement inventé. Ce qu'on nomme la Grèce peut bien être traversé ou mêlé d'une quantité considérable de conduites religieuses. Il n'en demeure pas moins que ce qui, avant toute chose, distingue, voire constitue le grec, c'est un espace de vie et de pensée que ne façonne ni ne balise la présence divine, sinon celle des dieux de la cité ou de ceux de la spéculation qui précisément ne sont plus des présences. Cependant que certes les dieux des mystères poursuivent leur destin, autre histoire sur laquelle je ne m'arrêterai pas du tout. Cette invention de l'athéisme est celle, au fond, qui fait les Grecs tous descendants de Xénophane qui, bien avant Platon, raillait l'anthropomorphisme des dieux et qui ainsi pensait déjà dans l'invention de l'athéisme. Cette invention répond à un changement du paradigme général, à un ordre du monde donné et reçu sur un mode destinal, se substitue le régime d'une construction du monde à partir d'une interrogation sur son principe ou sur ses principes. Qu'on se mette alors à parler de nature au sens d'un système d'éléments, de principes et de conséquences, signifie que le monde ne se partage plus entre des présences de qualités et de statuts divers, mortels, immortels, basses, hautes, impures, pures, mais qu'il se partage entre la totalité du donné et l'ordre des conditions de ce qui ne peut plus simplement en être la réception, mais qui doit, du donné, donner en retour la raison. Cette raison peut bien être dite divine, sa divinité ne tient cependant qu'à l'excellence de sa position axiologique, mais non à un écart intrinsèque de sa nature. De droit, au contraire, cette nature divine s'indique comme accessible aux mortels, fût-ce au-delà de sa mort, ou bien, au contraire et de préférence, sa mort dût-elle devenir la voie royale de cet accès. Lorsque Platon écrit « ho théos », comme cela lui arrive, cette désignation du Dieu au singulier et sans nom propre nous rend la traduction presque impossible puisque nous devons choisir entre quitter le substantif et parler de divin ou bien le garder et parler d'un Dieu, personne unique dont Platon n'a bien sûr aucune idée. Aucune idée, c'est le cas de le dire dans tous les sens du mot. Dans le théos de Platon, il est permis de dire que les dieux disparaissent, même si Platon lui-même peut les nommer au pluriel à quelques lignes du théos singulier, comme cela arrive dans le Théétète. C'est-à-dire que le paradigme de l'univers donné, ordonné et animé, cela on va se mettre à nommer une mythologie pour y substituer une physiologie et une cosmologie, Ce paradigme a cessé de fonctionner et ses représentations et ses histoires fondatrices ne sont plus reconnues comme modelage plastique du monde, mais seulement comme fiction. Les dieux s'en vont dans leur mythe. Il est alors permis de dire que le théos unique, privé de figure et de nom, représente en réalité l'invention de Dieu ou du Dieu en général. Il n'y a plus les partenaires immortels des mortels, mais s'ouvre au contraire la distance ontologique que le mot de Dieu va désormais mesurer. Nous devons donc considérer que l'invention de l'athéisme est contemporaine et corrélative de l'invention du théisme. Les deux termes, en effet, ont leur unité dans le paradigme principiel. Jamais un dieu se nomma-t-il Uranos, Isis ou Baal, jamais un dieu n'a eu ni position ni nature de principe. Les dieux agissaient, parlaient ou observaient depuis l'autre rive de la mort. Ils ne faisaient pas passer les mortels sur cette rive, ou bien s'ils le faisaient, ce n'était pas sans maintenir en même temps béant et menaçant le fleuve qui coulait entre les rives. Le principe, au contraire, ou bien les principes, mais le singulier est ici nécessaire et exigible par principe. Le principe n'a d'autre fonction que de jeter un pont entre les rives. Et telle est la fonction logique qui se substitue à la fiction mythique, la double position d'une altérité radicale, Dieu et homme ne sont plus ensemble dans le monde, et d'une relation du même à l'autre, l'homme est appelé vers le Dieu. Il est nécessaire de se munir de ces données initiales si l'on ne veut pas se tromper sur le face-à-face, toujours plus ou moins supposé, entre théisme et athéisme. Assurément, ce face-à-face existe dans la mesure où un terme est la négation de l'autre. Mais nous ne pouvons pas ignorer, je dirais, nous ne pouvons plus ignorer, à quel point cette négation retient, comme toujours, sans doute, l'essence de ce qu'elle nie. L'athéisme déclare le principe d'une négation du principe divin, c'est-à-dire du principe représenté dans la configuration d'un existant distinct du monde entier des existants, dont il détiendrait la cause première et la fin dernière. Il pose donc en principe, ou bien que la cause et la fin relèvent d'un autre ordre, immanent, ou bien que ces concepts ne doivent pas être mis en jeu. Dans la première hypothèse, l'immanence, qu'on la nomme matière ou vie, histoire, société ou art, l'immanence ne déplace strictement rien quant au statut idéal de la cause et de la fin. Mais plus encore, elle ne change rien quant à leur statut pratique. Car leurs principes n'ont aucune raison de ne pas devenir aussi contraignants, voire coercitifs, que ceux d'une volonté divine ou bien d'une économie du salut. L'Occident des 19e et 20e siècles a fait l'expérience de ces possibilités de coercition dans l'immanence ou par elle, jusqu'à un degré qu'il n'est pas difficile de qualifier de crucial. Et désormais, nous savons que l'athéisme, en ce sens, est un désastre. De manière paradoxale, et plus que cela, de manière heurtée, discordante, nous savons maintenant que l'athéisme est le seul éthos possible, la seule dignité du sujet. Je donne à ce mot ici valeur de praxis, et non de réflexivité, mais qui laisse en même temps démuni ou menaçant l'ordre du commun, de l'ensemble, de la culture, voire de la civilisation. Il n'y a rien Il n'y va de rien de moins à terme, s'il y a un terme, que de l'exigence inassouvie qui fut nommée communisme. Mais je n'en parlerai pas ce soir. À l'égard du commun, en tout cas, vaut entièrement cette phrase de Jean-Christophe Bailly : l'athéisme n'a pas su irriguer son propre désert. Et cela même, cette disjonction de ce que je désignais comme l'éthos du particulier et de ce désert du commun, cela même, c'est-à-dire cette congruence de l'athéisme et de l'individualisme, cela ne peut pas ne pas nous donner à penser. Quant à la seconde hypothèse, c'est-à-dire celle de s'exempter des concepts de cause et de fin. Il est sans doute assez manifeste qu'un certain état de la pensée, aujourd'hui, pourrait-on dire justement plutôt commun, ne demande pas mieux que de l'accueillir. Nous pressentons que cause et fin ne doivent pas ou ne doivent plus être des concepts recevables hors des sphères techniques déterminées à l'intérieur desquelles ils ont l'évidence d'axiome. Nous le pressentons d'autant mieux qu'à considérer non pas des systèmes techniques identifiés, mais le régime du monde qu'on peut nommer la technique ou bien le capital, il devient évident que ce régime ne cesse de dissoudre dans son propre déploiement toute possibilité de lui trouver, de lui imputer ou de lui inventer des causes et des fins. Ou des fins. C'est, si l'on veut, l'un des sens possibles du mot « mondialisation ». Nous devrions donc être capables d'une pensée strictement anaïtiologique et athéléologique. Et il serait facile de montrer combien cette exigence a déjà préoccupé la philosophie depuis le début du monde contemporain. Mais pour nous, malgré tout, jusqu'ici, une telle orientation de la pensée, c'est-à-dire la pensée sans fin, la pensée de la finitude sans fin, une telle pensée reste privative, soustractive et en somme défective, de même que l'est obstinément et sourdement, fût-ce à son corps, je dirais le plus défendant, la tonalité majeure de toute espèce d'athéisme. Ce qui, bien entendu, ne va pas à nous autoriser à légitimer les assurances positives d'un théisme. Il s'agit seulement de savoir, encore faut-il le savoir, et savoir comment faire, de savoir renvoyer dos à dos ces deux faces du même Janus occidental. Blanchot, en particulier, l'avait parfaitement compris et écrit. Un jour viendra peut-être, et peut-être même n'est-il pas très éloigné, où l'on pourra caractériser toute la pensée contemporaine comme un lent et lourd mouvement de gravitation autour du soleil noir de l'athéisme. À l'effondrement du principe, tel que toute l'ontothéologie classique en témoigne jusque dans et par sa déposition kantienne, suivie de ses funérailles nietzschéennes, à l'effondrement du principe n'a pas succédé une appréhension nouvelle, inédite, révolutionnaire, créatrice, libératrice, salvatrice, comment voudrions-nous, comment pourrions-nous la désigner ? Une appréhension nouvelle donc de cet effondrement lui-même et du vide qui en résulte. Une appréhension nouvelle, c'est-à-dire qui se produirait à travers d'autres prismes de pensée que ceux qu'appellent très banalement des mots comme effondrement ou vide. Je ne veux pas dire que la pensée contemporaine, dans ce qu'elle a de plus vivace, ne soit pas occupée à désorganiser et à délégitimer ces prismes. Elle ne fait peut-être même rien d'autre. Toutefois, l'athéisme continue, de manière très paradoxale en fin de compte, à fermer l'horizon. Ou peut-être est-il plus exact de dire qu'il continue à former un horizon, précisément là où il devrait s'agir d'autre chose. Car les horizons et les principes ont partie liée. L'horizon d'une soustraction, d'un retrait, d'une absence, voire l'horizon, pour m'y impliquer, de ce que j'ai moi-même parfois nommé absentéisme pour l'opposer à l'athéisme, pour l'en distinguer, l'horizon d'une soustraction continue à faire horizon, c'est-à-dire limite, impasse et fin du monde. Il cerne d'autant plus notre pensée que le monde, en effet, de partout touche à ses confins, sur le mode physique comme sur le mode métaphysique. Il ne peut plus être question, bien sûr, de sortir du monde, mais ce n'est pas une raison pour le considérer comme un horizon. En d'autres termes, la finitude ne borne pas l'infinité, elle doit au contraire lui donner son expansion et sa vérité. C'est en ce sens que je veux comprendre le mot de Wittgenstein, le sens du monde est hors du monde, c'est-à-dire que le dehors du monde est dedans. Voilà l'enjeu, il n'y en a pas d'autre aujourd'hui. Il ne s'agit en définitive, bien sûr, de rien d'autre que du nihilisme tel que Nietzsche l'a compris. L'athéisme, avec le théisme, et le nihilisme. Et si le nihilisme indique en même temps, comme le veut Nietzsche, que c'est à travers lui, à partir de lui, et presque comme en lui, qu'il peut être question d'en sortir, si ce terme est approprié, toutefois, il ne dépasse pas jusqu'ici sa propre indication vers autre chose que vers une répétition de son propre nihil. Assurément, c'est une répétition bien souvent puissante, courageuse, opératoire et inventive que celle qui se joue autour des repères du vide, de l'absence, du désastre, du sans-fin, de l'aporie, ou bien de manière plus ascétique, autour d'un renoncement plus ou moins souligné à autre chose qu'à des combinatoires de formes de vie et de régimes différenciés de vérité, avec parfois quelques perspectives survivantes, plus ou moins parentes de la régulation kantienne. Mais toujours, pourtant, il devrait s'agir en quelque manière d'introduire un sens nouveau en sachant que cette introduction elle-même est privée de sens, pour citer à peu près Nietzsche, dans un paradoxe dont la logique recèle toute la force d'injonction et toute la difficulté, voire l'angoisse, de notre situation. Mais comment lever l'aporie si le forçage d'un sens par-delà le sens, insensé, sens absent, sens hyperbolique ou hypertrophié, Si le forçage d'un sens par-delà le sens ne nous a donné rien de moins que l'horreur exterminatrice sous tant de formes, conjointes ou affrontées à l'impuissance humaniste, sous tant de formes, elle aussi. Ce dernier mot, l'humanisme, nous jette à nouveau vers le centre noir de notre vertige. L'humanisme a été l'athéisme, il en a été la vérité, la portée, la proposition et l'opération. Parce qu'il a retourné en essence de l'homme l'essence du Dieu, il n'a fait qu'imprimer au principe une rotation sur lui-même, une révolution. Aussi n'a-t-il, d'une part, rien modifié à la construction onto-a-théologique, ni d'autre part situé sa propre figure du principe en une place digne d'elle. Et voici comment, pour la première fois, je rencontre Heidegger, à savoir cette phrase dans la lettre sur l'humanisme: l'humanisme ne pense pas assez haut l'humanitas de l'homme. Que veut dire la hauteur ainsi suggérée? Que veut-elle dire surtout si nous réfléchissons, et bien sûr nous le faisons, au fait que Heidegger écrit cette phrase après être passé par l'aveuglement que nous savons pour la grandeur de ce que stigmatise le mot national-socialisme? Doit-on même parler en termes d'élévation, d'altitude ou de taille pour penser ce assez haut, l'humanitas? Cela n'est pas certain. Mais en quels termes donc? Pascal avait écrit que l'homme passe infiniment l'homme. Que pourrait être ce passé? Dépassé, surmonté, excédé, transporté, transfiguré, divinisé, naturalisé au contraire, technicisé, exposé à l'abîme, anéantir ou encore, de manière plus condensée, déshumanisé, inhumanisé, surhumanisé. Comme nous voyons, nous avons parcouru depuis quelques deux siècles toute la galerie de ces figures à la manière de l'esprit hegelien, et nous sommes, autrement que lui, épuisés, écœurés de ce nôtre savoir absolu d'où ne rejaillit vers nous, à la différence de celui de l'esprit, aucune autre infinité que celle d'une infamie, selon laquelle le dépassement de l'homme prend la forme d'une domination inexorable des hommes par un processus d'ensemble qui n'est même plus leur histoire, mais une machinerie indifférente à leur sort et tout occupée de son propre développement exponentiel et exponentiellement tautologique. Cette tristesse résume l'athéisme. Même la possibilité tragique qui peut avoir été celle des Grecs, se découvrant privés, abandonnés ou maudits des dieux, nous est refusée. La tristesse ne garde rien de l'étrange joie tragique dont Nietzsche ou le jeune Benjamin furent encore des témoins. Cela veut dire aussi, plus clairement que jamais, que la sortie du capitalisme, ici encore, s'il s'agit de sortie, ou bien en quelle valeur de ce mot, ne peut s'envisager que comme celle du nihilisme. Et cela de deux manières solidaires l'une de l'autre. D'une part, la structure formelle de la sortie est la même, c'est-à-dire c'est une sortie à partir du dedans, comme Marx et Nietzsche, tous les deux, l'ont su, D'autre part, il s'agit du même enjeu, celui que je désigne ici, tout provisoirement, comme la nécessité d'une altération effective de la tautologie, ou bien donc la nécessité d'une hétérologie. Si j'entame à présent une considération relative au monothéisme, ce n'est pas pour y chercher l'issue, le remède ou le salut. Le salut représente au contraire la confirmation du monde du nihilisme par la nécessité qu'il affirme d'une rédemption. En ce sens, le monothéisme n'aura rien représenté d'autre que la confirmation théologique de l'athéisme. La réduction du divin au principe dans une logique de la dépendance du monde. Et c'est ainsi, comme on le sait, que de façon majeure et la plus visible en tout cas, Heidegger aura toujours considéré le christianisme. De manière corollaire, la tautologie du monde s'y déplace, dans le monothéisme, s'y déplace simplement en tautologie de Dieu. Le Dieu unique n'est en effet rien d'autre que la répétition de son être immuable. Il n'a pas d'histoire ni de figure, et ce n'est pas par hasard qu'en un moment décisif de ses redéfinitions, il a été désigné et pensé en tant que le logos présent en arché. En réalité, ce moment correspond à la conjonction de l'athéisme grec et du monothéisme juif dans l'élaboration de ce qui, sous le nom de christianisme, aura constitué la configuration majeure de l'onto-a-théologie, autrement rejouée au titre de l'islam. À travers les religions du livre s'est effectuée une histoire singulièrement complexe, voire retorse, dont l'élément moteur ou bien le nœud organisateur se tient exactement au point de conjonction du Greek Jew to Greek de Joyce, mais en tant que ce point forme en même temps un point de disjonction, et en tant que cette disjonction intime au cœur donc de l'athéisme lui-même, demande encore à être vraiment éprouvé. Et c'est à cela que je voudrais m'intéresser. D'une part, en effet, la conjonction ne conjoint pas autre chose que deux formations de l'athéisme lui-même. Le monothéisme juif, tel qu'il se développe et se répand dans le monde grec, en sorte qu'il débouche dans la pensée chrétienne, qu'on pourrait à bon droit nommer stoïcienne chrétienne, ne dispose rien d'autre que, simultanément, l'évanouissement confirmé de toutes les présences et puissances divines et la désignation d'un principe qui n'a plus de divin que le nom, Dieu, mais un nom précisément dépouillé de toute personnalité ou bien de sa propre prononçabilité. Considérée sous cet angle, toute l'histoire de Dieu, du Dieu de l'Occident, ne déploie rien d'autre que le procès de l'athéisme même dans sa progression la plus rigoureuse, passant, pour prendre seulement quelques repères, par l'idée de preuve de son existence, qui suppose qu'une existence au moins puisse être déduite a priori, à partir de quoi toute existence le sera. Et la supposée preuve se replie dans une tautologie ontologique, ou bien par le Deus sive natura de Spinoza, lequel cependant laisse parfaitement ouverte la question de savoir en quoi consiste l'unité de ce Deus qui n'existe que dans l'infinité de ses modes, ou bien, et pour finir, par le Dieu de Feuerbach, dont l'homme n'a qu'à se réapproprier les prédicats en négligeant la substance imaginaire. On pourrait y ajouter une quantité considérable de traits, tels que l'idée du parfait chez Descartes, ou bien la liberté nécessitée par laquelle le dieu de Leibniz crée le meilleur des mondes possibles. De toutes les manières, on aboutira à ce résultat. Dieu nomme le principe d'une totalité présupposée fondée en unité et en nécessité. À ce compte, Dieu ne nomme que la tautologie de l'unitotalité ainsi présupposée. On pourrait même dire le nom de Dieu est venu à point baptiser, si j'ose dire, la tautologie elle-même. En termes heideggeriens, Dieu nomme la consistance de l'être conçue comme principelle, fondatrice et essentielle. Il représente de la façon la plus manifeste l'être au principe de l'étant. In summum verum bonum. Rien d'étonnant dès lors à ce que Heidegger n'ait voulu montrer qu'il voyait dans le christianisme qu'un épiphénomène sans spécificité remarquable au regard de l'histoire destinale et épocale de l'être. De l'être lui-même, cette fois compris, non pas comme principe, mais au contraire, comme principe d'anarchie, s'il est permis de se contenter ici, pour aller vite, du paradoxe forgé par Rainer Schirmann dans sa lecture de Heidegger. Mais nous commençons à savoir, je mentionnerai une fois de plus en particulier le livre de Didier Franck, que le christianisme comme ontothéologie, comme ontoathéologie, n'est pas, sans doute, celui avec lequel Heidegger a mené son explication silencieuse. Mais encore une fois, je m'approche seulement de cela. Je n'y rentre pas. S'il en est bien ainsi, dans cette histoire de la métaphysique, c'est tout simplement de ça qu'il s'agit, il n'en reste pas moins inévitable de se demander pourquoi la racine de l'athéisme aura pu, sinon aura dû, comment pouvons-nous parler de notre propre histoire? Dans quel terme ou nom de nécessité? Pourquoi la racine de l'athéisme aura pu, sinon aura dû, avoir une double constitution? La déconsidération du christianisme comme épiphénomène de la métaphysique, aussi bien, d'ailleurs, que sa réduction par Kant ou par Hegel, ou par Feuerbach, au statut de transcription représentative de la logique, de la raison ou de l'esprit, ne rend pas compte, pour finir, de ce phénomène de doublure ou de doublage ou de déhiscence de ou dans la racine elle-même. On pourrait dire aussi, la raison, la nôtre, ne rend pas raison, pour finir, de ses représentations. L'idée de la transcription, du travestissement ou du détournement religieux d'opération de la raison, cette idée qui commande en définitive, avec bien des variations sur les thèmes de la représentation, du sentiment, de l'illusion et de l'idéologie, l'essentiel de la dénonciation philosophique, si cette idée rend compte à beaucoup d'égards de l'infamie morale, politique et spirituelle que partagent indiscutablement les religions, et spécialement les monothéistes, ce qu'il faudrait examiner ailleurs, cela ne rend pas compte pour autant de cette singulière déhiscence du logos ou du principe, ou de cette déhiscence de principe dans le principe lui-même, sauf à se contenter tantôt de désigner un degré inférieur de la raison, un manque à s'élever à la hauteur de la pensée, tantôt de déplorer plus directement encore une véritable perversion ou une maladie de la pensée, de la culture, de la société. Il est étrange de penser que notre civilisation tout entière pose en principe l'essence faible, corrompue ou étrangère, c'est-à-dire le plus souvent implicitement non grecque, de cela qui n'a pas cessé d'en constituer depuis plus de 20 siècles comme la doublure interne. Tout se passe comme si l'athéisme refusait de considérer la possibilité que ce doublement interne puisse être compris d'une autre façon que par l'infirmité, la maladie ou bien la perversité des prêtres. Comme nous le savons, mais peut-être pas assez, Nietzsche lui-même est loin d'en rester là. Sans aucun doute, infirmité, débilité, maladie et méchanceté sont à l'œuvre de manière alternée ou conjointe dès qu'il s'agit d'assurer une maîtrise et une présentation du principe. La faiblesse insigne de la logique du principe, et faudrait-il dire de la logique tout court, se déclare au point crucial où théisme et athéisme se coappartiennent. Pour autant que le principe est affirmé, ou bien symétriquement nié, il ne peut que s'affaisser dans sa propre position ou déposition. Car, et voici le point décisif, il devrait lui revenir au principe. Il devrait lui revenir d'excéder en tant que principe la principialité elle-même, ou encore, et peut-être plus tôt, de s'y dérober, de s'en retirer, de s'y soustraire, ou encore de la déconstruire à partir d'elle-même. Un principe, ou un principa, pour solliciter ce mot, ne peut que s'accepter de lui-même, du moins est-ce là une des branches de l'alternative devant laquelle le principa est inéluctablement placé. Et bien entendu, je fais allusion aussi à la théorie de la souveraineté, qui est une théorie logique autant que politique. Ou bien le principe se confirme lui-même infiniment, ou bien il s'accepte de lui-même, et non moins infiniment. Ou bien donc, et pour reprendre les termes que j'employais avant, il confirme sa tautologie aïtiologique et téléologique, ou bien il se trouve de lui-même exposé comme hétérogène à sa propre tautologie, se dérobant dans une hétérologie. Et brutalement, on pourrait dire, c'est la bonne ou la mauvaise infinité du principe lui-même. N'est-il pas alors souhaitable d'examiner si la doublure et la déhiscence entre monothéisme et athéisme ne communiquent pas avec cette hétérologie? Autrement dit, pouvons-nous être aussi tranquillement assurés, sans autre interrogation, que le monothéisme n'est que la face débile et cléricale de l'athéisme, l'un et l'autre demeurant toujours réunis dans la crispation du principe ou de l'un, c'est-à-dire aussi bien dans la déréliction du nihilisme? L'athéisme grec et le monothéisme juif se sont rencontrés en un point où l'unité du principe et l'unicité du Dieu se sont mutuellement confortés et contrariés en même temps par une même contraction, attraction et répulsion mutuelle, par un double et violent mouvement dont les effets n'ont pas cessé d'innerver et d'irriter notre histoire. D'une part, en effet, l'unicité du Dieu se laissait très évidemment subsumer ou absorbée par l'unité du principe. Ainsi, le christianisme devint-il de lui-même, était-il de lui-même, humanisme, athéisme et nihilisme. Mais d'autre part, l'unicité du Dieu se refusait à entrer dans l'ordre du principe. Ce n'est pas un hasard si, en plein essor de la rationalité moderne, Pascal éprouve si violemment la nécessité de disjoindre sans réserve le Dieu des philosophes et des savants du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de Jésus-Christ. Cette disjonction et la contrariété ou la contradiction qui en résulte sont logés au cœur de l'athéisme, très exactement à l'endroit où le principe même du principe, comme je le suggérais, s'effondre de lui-même et dans cet effondrement signale la possibilité, voire l'exigence, voire l'appel d'une toute autre configuration anarchique. Qu'il suffise de rappeler quelques-uns des traits majeurs par lesquels le monothéisme, malgré tout, contrarie au sein de l'athéisme le principat, au moins autant qu'il le conforte. Or, ces traits, dont je ne vais prendre que deux, ces traits, j'en fais l'hypothèse ou le pari, sont sans doute silencieusement à l'œuvre dans l'explication silencieuse de Heidegger avec le christianisme. À la relation qui se forme entre un principe et ses conséquences, ou bien entre une condition et ce qu'elle conditionne, s'oppose la relation entre le créateur et la créature, dont il faut tout d'abord affirmer qu'elle tranche radicalement avec la précédente, parce que si cette dernière est une relation d'identité, d'inhérence ou de conséquence, si A donc B, si alpha donc oméga. En revanche, la création est une relation d'altérité et de contingence si Dieu, celui-là, si Dieu, alors il n'y a aucune raison qu'il crée. L'idée de creatio ex nihilo, pour autant qu'elle soit bien distinguée de toute forme de production ou de fabrication, comme toute une longue lignée de penseurs, de mystiques, des trois monothéismes, permet de le discerner. Cette idée donc recouvre essentiellement le double motif d'une absence de nécessité et de l'existence du donné sans raison, sans fondement, ni sans principe, de son don, un don pour lequel aucun concept de don, sans doute, ne peut s'avérer convenable. Ex nihilo, c'est-à-dire rien au principe, un rien de principe, rien que cela qui est, rien que cela qui croit, creo, cresco, voilà la création, sans principe de croissance, même pas, surtout pas, le principe autonome d'une nature, sauf, encore une fois, à réévaluer ce concept de nature à travers Spinoza. D'emblée, pourrait-on dire, le nihil est posé. Si jamais on peut le dire posé. Et c'est peut-être la seule manière de sortir sérieusement du nihilisme. Nihilisme, en effet, veut dire faire principe du rien. Mais ex nihilo veut dire défaire tout principe, y compris celui du rien. J'ajoute seulement deux autres traits. Tout d'abord, celui-ci, la relation de création se double de la relation entre le saint et le pécheur. Une fois de plus, ce n'est pas l'identité, mais l'altérité qui est en jeu. Le saint est l'autre du pécheur, au sens où le pécheur est dans son être constitué par le rapport à cette altérité. Il est pécheur non pas d'avoir commis des fautes, mais de n'être pas saint. Et cela, c'est donc à la sainteté qu'il le doit. Or, la sainteté n'est pas un principe. La sainteté n'est ni déterminable ou représentable, ni prescriptible. Elle ouvre à l'homme ou en l'homme la dimension et le mouvement ou le geste d'un, précisément, se passé infiniment, qu'il ne serait d'ailleurs pas impossible de gloser en jouant sur ces deux possibilités du français, l'homme passe infiniment l'homme et l'homme se passe infiniment de l'homme. Dieu ou le saint se passe-t-il ou non des hommes? Comme on le sait, cette question n'a pas cessé de travailler à l'intérieur des théologies. Et au passage, puisque je suis revenu à cette formule de Pascal, me rapprochant encore de Heidegger, je demanderai que fait d'autre Heidegger parlant de l'élévation de l'humanitas, sinon redire ou rejouer Pascal, et peut-être, en fin de compte, très consciemment. Le dernier trait que je retiendrai, enfin, pour maintenant, sera celui de la foi. Si le principe doit être su ou bien connu, de même d'ailleurs que devaient l'être les dieux, et si de surcroît la religion, pour sa part, est aussi une forme de savoir, c'est le savoir de l'observance et du scrupule. C'est en revanche à la foi que s'adresse le saint. La foi n'est pas un savoir faible, hypothétique ou subjectif, invérifiable et recevable par soumission plutôt que par raison. Elle n'est pas une croyance, au sens ordinaire du terme. Elle est au contraire la foi, l'acte de la raison, se rapportant d'elle-même à ce qui, d'elle, se passe infiniment. La foi se tient précisément au point de l'athéisme entièrement conséquent, c'est-à-dire dessaisi de la croyance ou du savoir croyant au principe et au principa en général. C'est le point déjà formellement reconnu par Kant lorsqu'il parle, par exemple, de, je cite là une lettre, de l'incapacité où se trouve la raison au regard de ses besoins de se donner satisfaction par elle-même. La raison ne se suffit pas à soi-même, pour soi, elle n'est pas raison suffisante. Autre approche de Heidegger, cette fois lisant Leibniz. Mais c'est dans la reconnaissance de cette insuffisance qu'elle se fait entièrement droit, car elle reconnaît ainsi, non pas un manque ou un défaut dont elle devrait attendre d'un autre la réparation, mais bien plutôt ceci, que la logique de la suffisance et ou du manque n'est pas celle qui lui convient. Et voilà pourquoi ce que le même Kant nommait une foi morale ou une foi pratique et non métaphysique, spéculative ou bien doctrinale, pour reprendre ces termes, voilà pourquoi cette foi pratique a son essence non pas dans une défaillance de la raison, mais au contraire dans la fermeté avec laquelle la raison se confronte à son insatisfaction, en n'y voyant pas une insuffisance, un défaut ou un manque qui la condamne au nihilisme. Elle y découvre une non-suffisance en ce sens très précis où désormais il ne s'agit plus de suffire ni de satisfaire, c'est-à-dire en ce sens où il n'y a pas de satis, d'assez, car il n'y a là ni suffisance ni satisfaction possible s'il n'y a pas non plus de principe auquel satisfaction devrait être rendue. La foi est alors, et je ne m'amuse pas à forcer le paradoxe, la foi est alors la ferme fidélité de la raison à sa propre athéologie. si je peux emprunter à Bataille ce terme d'athéologie pour essayer de le glisser entre théisme et athéisme. Ce que le nom de Dieu, à la rigueur, ou bien celui du saint, se met à désigner dans ce régime athéologique, non seulement renvoie à une ruine du principe, mais de manière encore plus contraire à la logique principielle, renvoie à quelque chose, à quelqu'un, ou bien à un rien, à une res, rem, peut-être au même nihil ex quo, dont la foi elle-même est le lieu de naissance ou bien l'événement créateur. Que Dieu lui-même soit le fruit de la foi, laquelle en même temps ne tient qu'à sa grâce, c'est-à-dire s'accepte de la nécessité logique aussi bien que de l'obligation religieuse, voilà une pensée bien étrangère et peut-être la plus étrangère au couple du théisme et de l'athéisme. C'est la pensée de l'altérité ouverte par et exposée hors de la même-té comme ce qui l'excède infiniment sans pour autant lui être en quoi que ce soit principiel. Demeure pourtant, bien sûr, en question le point de savoir si Dieu ou bien le saint peuvent ou doivent encore et à quel titre former des noms pour cette altérité de la raison. Et même s'il est acquis que l'athéisme, lui, reste un terme équivoque et sans avenir, aucune réponse n'est encore donnée de cette manière à la question posée. Je ne vais pas chercher à donner une réponse. Mais c'est maintenant seulement, et pour commencer à conclure, que j'en viens à cette parole de Heidegger qui semble, elle, détenir la réponse. Seul un Dieu peut nous sauver. Nur noch ein Gott kann uns retten. J'ai voulu essayer de convaincre que s'il n'est pas politiquement correct de traiter cette phrase sans mépris, c'est peut-être pourtant philosophiquement nécessaire. Très sèchement, que dit cette phrase ? D'abord, elle aussi, elle dit une tautologie, mais une autre. Ou peut-être la même retournée. Elle dit une tautologie car s'il y a lieu de sauver, alors bien sûr, seul un Dieu le peut. Et plus encore d'ailleurs, pour traduire plus exactement « nur noch ein Gott », rien d'autre qu'un Dieu. C'est du moins l'une des façons dont on peut accentuer le nord lié au nour dans la phrase. Tautologie, donc, est vide aussi longtemps que sauver n'est pas pensé. On pourrait dire que ce n'est pas Dieu le problème, là, c'est sauver. Or, peut-être peut-on dire, là aussi très sèchement, beaucoup trop brièvement, sauver n'est pas guérir. Ce n'est pas un processus. Et ce n'est pas régler, quoi que dise le mot, bien sûr, sur une santé finale. Encore que salus et sanus ne sont pas du tout le même mot ni la même racine en latin. Sauver, c'est un geste unique, instantané, et par lequel est retenu celui qui déjà est dans l'abîme. J'aimerais dire, sauver n'annule pas l'abîme, mais a lieu en lui. Cela même, l'être dans ou à l'abîme. Geworfen sein. Misère. Et je poursuis ainsi le contrepoint avec Philippe. Déréliction. Cela même n'est pas cela d'où on guérit, ni d'où on revient, schéma dialectique en général, ni cela dont on pourrait se donner la représentation mimétique, mais bien cela, l'élément dans quoi plus que de quoi il y a Rettung. Salut. Du moins, me semble-t-il, est-ce cela qu'il faudrait penser ? Je glisserai volontiers ici ces mots de Rachel Bespalov, qui fut une étonnante lectrice de Heidegger, des mots qui ne viennent pas de sa lecture de Heidegger, qu'il ne faut pas nommer Dieu son impuissance et son désespoir, ça c'est une citation de Nietzsche qu'elle reprend, ni y chercher un remède, voilà pour la guérison, mais s'exposer au péril du salut. Comment aborder la pensée de ce qui serait ainsi en jeu ? Sûrement pas, évidemment, avec la philosophie comme science des principes, ni comme formation de Weltbilder. C'est ce qu'Heidegger indique aussi dans le contexte de l'entretien dont il est question, en disant que la philosophie est à sa fin. Et le Dieu dont il parle pourrait ne désigner avant tout que cela, ce rien d'autre, Nur-Nor, dont la philosophie comme telle n'est pas, ne peut pas être le lieu ni le régime, bien que seule, peut-être, elle en indique la nécessité et la postulation. Ce Dieu, ce dernier Dieu, comme on sait, autre valeur du Nord encore, c'est-à-dire pour Heidegger, s'il est encore possible que cela ait lieu dans notre abîme, et en fait, une formule comme celle-là, c'est-à-dire à peu près la formule de la phrase, était pratiquement présente, presque littéralement, dans les cours sur Nietzsche. Et cela se dit, ce qu'il en est de ce Dieu en tant que dernier, c'est-à-dire en tant que Dieu qui peut-être met fin à la confrontation du théisme et de l'athéisme, et met fin par conséquent au divin lui-même. Cela se dit ou s'indique dans les Beiträge, comme on sait par la formule « der Gott winkt », c'est-à-dire, justement, on ne peut vraiment pas traduire, « le Dieu fait signe ». Et Heidegger précise « sein Wesen ist im Winken », son essence est dans le Winken, c'est-à-dire en allemand faire un signe sans signification, faire un geste ou un clin d'œil, faire comme font les enfants, winke, winke, dire au revoir. Et en effet, ce Dieu s'en va, il ne fait que passer. Dire que le Dieu winke, c'est dire qu'à la fois qu'il ne fait que passer et qu'il ne fait, il ne produit, il n'adresse rien d'autre que ce geste sans signification, cette indication, cet indice. L'indication, évidemment, se fait vers quelque chose, elle se fait vers et à partir d'eux, l'Ereignis. Et l'Ereignis, nous le savons au moins, ça n'est pas simplement l'événement appropriant, mais c'est toujours en même temps ent et zu Ereignis, c'est-à-dire c'est, si c'est appropriation, c'est du propre en tant que propre une ou comme une dépropriation et adpropriation. Une adresse, une dédicace. Et cela veut dire au moins, et avant tout, cela veut dire sans doute par-dessus tout, sans savoir, hors sens. Ni savoir fort, science, ni savoir faible, croyance. Ni croyance en Dieu, ni croyance en l'homme, ni au savoir, ni à l'art. Mais ce vers quoi ou à partir de quoi il est fait signe, c'est une fermeté, oui, et une fidélité. Et nous serions ainsi reconduits à la foi pratique de Kant, que je rappelais. Et c'est peut-être, si j'ose dire, tout simplement elle qu'il faut repenser, ou qui est encore à penser. C'est pourquoi je me permets de conclure en vous livrant ceci à titre d'hypothèse de travail. La phrase de Heidegger ne serait pas autre chose, pourrait être lue comme n'étant pas autre chose, que comme une reformulation, on aurait dit naguère une réécriture, une formulation certes risquée, le danger et la promesse, mais nécessaire cette reformulation parce que nous ne sommes plus en 1790, mais au fond, peut-être pas plus ni moins risquée que ce qu'elle reformule, à savoir cette phrase fameuse, autre phrase fameuse, plus fameuse, que je retraduis maintenant, il me fallait donc abroger le savoir afin d'obtenir place pour la foi et le dogmatisme de la métaphysique, c'est-à-dire le préjugé selon lequel on pourrait y progresser sans une critique de la raison pure, est la véritable source de toute incrédulité aux prises avec la moralité. Incrédulité qui, pour sa part, est toujours, en fait, très dogmatique. C'est bien entendu la deuxième préface à la première critique. Je souligne simplement pour terminer, je mets, si vous voulez, deux traits pour souligner dans cette phrase. D'abord, il n'y est aucunement question de religion, mais seulement et entièrement de la raison. Mais seulement et entièrement. Et d'autre part, il y est question de trouver ou de faire de la place, platz, dit Kant, dans la raison. Faire place à quoi ? À sa propre exigence. Je vous remercie.
En votre nom, je remercie Jean-Luc Nancy pour cette conférence inaugurale qui a mis le colloque sur orbite. Et comme nous avons un peu de temps devant nous, il y a deux choses. Donc, vous pouvez poser des questions à Jean-Luc Nancy. Et je pense que les organisateurs ont quelques questions pratiques à communiquer. Monsieur Bensoussan ou Joseph Cohen. Ils le feront dans les jours qui suivent. Bon, alors, allons aux questions. Qui veut intervenir ? Qui est-ce qui veut s'adresser à Jean-Luc Nancy ?
Mais ce n'est pas nécessaire non plus. Hein.
Sinon. Évidemment, la densité de sa leçon demande réflexion, mais d'un autre côté, il y a 5 jours devant nous pour lui poser toutes les questions qui nous viendront par la suite. Alors, bon, s'il n'y a pas de questions, je vous laisse à la méditation de la leçon qui vient d'être prononcée, en vous remerciant, en remerciant encore une fois, comme l'a fait Jean-Luc au début, les organisateurs de ce colloque qui va donc s'étendre jusqu'à dimanche soir. Je vous souhaite une agréable soirée et clos ainsi cette séance inaugurale. Merci.
Oui, mais je pense que... Oui, c'est ça.